Voici les 3 étoiles de Marc Legault.
Bonjour Marc Legault.
Salut Carl.
On va parler des Olympiques, ça s'en vient à grands pas et le Canada a sélectionné ses porte-drapeaux pour la cérémonie d'ouverture.
Oui, un petit peu différent cette année. Deux porte-drapeaux, Miranda Ayim, une joueuse de basket, et puis Nathan Hirayama, un joueur de rugby à 7. Honnêtement, moi, c'est la première fois de l'histoire que je ne connais pas les porte-drapeaux.
Ah oui, hein?
J'ai dû faire une recherche, j'ai dû aller chercher, j'ai aucune idée c'était qui. Sauf que, tu sais, un choix comme ça, c'est jamais anodin. Hein? C'est vraiment discuté, c'est choisi pour toutes sortes de raisons. Comme je te dis, c'est la première fois qu'il y a deux porte-drapeaux, aussi que c'est des athlètes qui font partie de sport d'équipe. Ça aussi, c'est la première fois. Et si vous avez suivi l'actualité dans la dernière année, oui, il y a eu la pandémie, mais il y a eu d'autres choses aussi là, au niveau social. Ce choix-là n'est pas anodin non plus, là, sans rentrer dans les détails. Et c'est bien correct comme ça. Et pourquoi c'est correct comme ça aussi? On aurait pu y aller avec un choix comme Damien Warner, hein, qui a une chance de remporter une médaille au décathlon, une des épreuves les plus prestigieuses des Jeux olympiques. André de Grasse, qu'on connaît tous, même si les gens ne suivent pas nécessairement l'athlétisme ou les sports amateurs, les gens se souviennent d'André de Grasse. Ses confrontations, entre autres avec Usain Bolt. Il y a Rosie McClellan à la trampoline. Elle avait déjà été porte-drapeau aux Jeux olympiques de 2016. Donc, évidemment, j'ai pas vu ça deux fois de suite, où est-ce que t'es porte-drapeau, mais c'est un espoir de médaille aussi. On aurait pu prendre une joueuse de l'équipe de soccer canadienne, évidemment, qui a des chances de médaille. Quelques gros noms là-dedans, Christine Sinclair, entre autres. Ça aurait été des choix logiques, mais on est allé. J'ai l'impression qu'on veut aussi nous faire découvrir des athlètes.
Ouais.
Parce que, malheureusement, je me sens tellement mal pour la grande majorité des athlètes. Il y en a que non, là, mais pour la grande majorité des athlètes, les Jeux olympiques, c'est leur vitrine. Mais surtout, l'année qui précède les Jeux olympiques, c'est leur vitrine. Pourquoi? Parce que les réseaux de télé le savent que les Olympiques vont s'accaparer du temps d'antenne, qu'on va parler de ça pendant 2 semaines. Ils veulent être à la page, ils veulent que les gens suivent, ce qui fait en sorte qu'on a des reportages sur ces athlètes-là qu'on n'a jamais d'habitude. On a des compétitions qui nous sont présentées qu'on n'a jamais d'habitude dans l'année qui précède les Jeux pour nous faire découvrir les athlètes, pour nous faire découvrir les sports, pour nous faire découvrir les histoires dont on va nous parler. Mais en raison de la pandémie, il n'y en a pas eu. Ce qui fait en sorte que la plupart des athlètes qui vont se présenter là seront des inconnus du grand public. C'est sûr que ceux qui sont déjà allés en 2016, on va en entendre parler. Mais habituellement, là, c'est qu'on nous documente leur performance dans l'année qui précède les Olympiques. Ce qui fait en sorte que tu as des histoires, puis tu te dis, ben tiens, cette personne-là au lancer du poids, finit 2e au championnat du monde, finit 3e à telle compétition, ben c'est parce que ça va être intéressant à regarder, c'est une belle histoire, puis ça. Mais on n'a rien de ça cette année, et c'est tellement dommage, comme je te dis, parce qu'il y en a que c'est leur occasion unique. Puis je te parle pas juste pour faire l'argent et avoir de la publicité, parce que la plupart sont dans le sport, parce qu'ils adorent le sport puis ils veulent performer, mais juste au niveau des subventions, parce que la majorité en ont besoin aussi. Donc, c'est dommage que c'est passé. Ça sera pas évident pour eux autres. Puis je pense que le choix de ces deux athlètes-là, c'est un petit peu pour le concept d'équipe. Hein, ça n'a pas été facile pour les sports d'équipe. Et surtout, on veut nous faire découvrir ces athlètes-là. T'as Ayam, qui est une des meilleures joueuses de basket féminine au monde, qui joue en Europe depuis une quinzaine d'années. C'est pas rien. C'est toute une carrière. Puis t'as Hirayama, qui est un des meilleurs joueurs de rugby à 7, qui fait son entrée aux Jeux olympiques au monde. Avant la pandémie, c'est le 3e meilleur marqueur au monde. Les gens ne le connaissent pas. Les gens n'ont aucune idée c'est qui. Mais ce qui fait que
les gens suivent pas ça, le rugby à 7, là, je veux dire.
Exactement. Mais sauf que, Carl, puis tu sais, ça revient à ce que je te disais. Dans la dernière année, on aurait vu des tournois, on aurait vu des compétitions, on aurait vu des matchs. Pourquoi? Parce que c'est aux Olympiques, parce que on veut nous faire découvrir ces athlètes-là, ces histoires-là, pour qu'on soit prêt, pour qu'on puisse embarquer là-dedans. Parce que quand tu as un sentiment pas de fierté, mais quand t'as un sentiment envers un athlète, quand tu connais l'histoire, quand tu connais les performances, quand tu connais d'où il vient, comment ça s'est fait, ben c'est sûr que tu veux regarder les performances, puis tu vas t'attacher à ça, puis tu veux que cette personne-là performe. Mais si tu t'installes pendant 2 semaines, puis ça va être le cas cette année, devant ton téléviseur, puis tu regardes les Jeux olympiques, puis on te présente un athlète canadien que t'as jamais entendu parler, que t'as aucune idée, puis qu'il n'y a pas eu de compétition depuis un an et demi, Ben, tu souhaites qu'ils gagnent parce que t'es Canadien, évidemment, mais t'as pas ce sentiment-là, t'as pas le sentiment de connaissance comme les gens ont envers leur propre équipe professionnelle. Puis, tu sais, on l'a vu même dans les fameuses bulles dans le sport professionnel. Honnêtement, lorsque les Sénateurs ou le Canadien, ou peu importe l'équipe, jouaient dans la fameuse bulle à Edmonton l'an passé, c'est ton équipe, mais pas chez vous.
Ouais.
Hein? Tu croises pas la personne à l'épicerie, tu croises pas la personne au centre d'achat, au resto, en marchant sur le trottoir. Ça fait pas partie de ta communauté.
Le sentiment d'appartenance est moins là.
Exactement.
Parce que t'as pas la relation d'établie.
Tu as tout à fait raison, mais cette année, alors que les équipes évoluaient même sans partisans, mais ils étaient dans leur ville, on a senti déjà là l'augmentation du sentiment d'appartenance, puis c'est tout à fait normal. Malheureusement, pour les Jeux olympiques, ça va être comme ça cette année, mais comme je te dis, je pense que le choix des athlètes n'est pas anodin, et je te dirais que c'est un bon choix dans les circonstances.
Maintenant, parlons de hockey. Il y a le Canadien Luke Prokop qui a...
Oui.
Toute une nouvelle. En 2021, premièrement, c'est étonnant que ça a pris tant de temps, dans un certain sens, mais en même temps, c'est courageux de le voir dévoiler son homosexualité hier à l'aube de son camp d'entraînement là, avec les Predators.
Oui, et je vais aller... Je vais paraître bizarre et peut-être sans cœur, là, mais laisse-moi finir, inquiète-toi pas, il y aura pas d'appel à la station, puis tout ça, là, ça va être correct ce que je vais dire, mais je m'en sac totalement, et c'est ça la bonne nouvelle. J'ai pas de réaction à ça, et tant mieux. Puis je suis convaincu que je suis pas le seul, parce que moi, je vis dans un monde de sport, je croise beaucoup de monde qui ne parle que de sport, et là, évidemment, la nouvelle est toute fraîche, mais je suis convaincu que personne va me parler de ça. Personne, et c'est excellent, là. Soit dit en passant, c'est une très bonne nouvelle. Même chose, souviens-toi, il y a quelques mois, t'as Carl Nassib qui joue pour les Raiders, exactement, de Vegas maintenant. Lui, c'est un vétéran de 5 ans. C'est le premier joueur actif qui a déclaré ouvertement son homosexualité. Et je m'en souviens, il y a eu des gros titres. Mais moi, j'ai vu passer ça, puis ça m'a rien fait parce que... Puis tu l'as dit, c'est surprenant qu'en 2021, on apprenne une nouvelle comme ça, mais moi, je pense que je suis rendu là, et je te dirais que la plupart des gens, du moins dans mon entourage, sont rendus là. Il y a zéro réaction, puis il n'y aura pas de réaction, et je vais te faire un comparatif. Michael Sam, tu te souviens, il avait été repêché au football par, je sais pas, c'est les Cowboys, et puis il avait pas fait l'équipe, il avait déclaré qu'il était ouvertement gay, lui aussi, là, à la suite de son passage au football universitaire, et il s'était retrouvé chez les Alouettes de Montréal. Et je me souviens très bien de sa première visite, et en fait, c'était son premier match dans la Ligue canadienne de football, au stade de la Place TD. On faisait le match à la description. Et ça, c'est juste il y a 3-4 ans de ça. Et il y avait un buzz dans le stade. Il y avait une fébrilité. Il y avait quelque chose de totalement différent. Il y avait eu une couverture médiatique monstre. Et il se présentait au stade comme une bête de cirque. Littéralement, là,
les projecteurs il y avait un joueur, braqués sur lui, il y avait l'attention... Un joueur,
ouais, ouais. Il y avait un joueur homosexuel qui s'en venait jouer au football et le stade était plein. Comme je te dis, il y avait une fébrilité. Tu sentais de l'électricité dans l'air. Puis en bout de ligne, c'est parce que c'était un joueur de football. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, en même temps, vas-y.
Écoute, il y a 800-900 joueurs dans la Ligue nationale. Il y en a un qui est sorti du garde-robe.
Oui.
J'ai comme l'impression que c'est encore tabou, là, même si...
C'est clair. Non, je comprends.
Je comprends que toi, ça te dérange pas. Tu sais, c'est pas important. Mais il y en a qui demeurent dans le garde-robe parce qu'ils pensent que pour plusieurs autres, le jugement, les colibets, les insultes sur la glace, c'est macho encore le hockey, là.
C'est sûr. Non, c'est sûr et certain, Carl. Puis c'est pour ça que je te dis, mon message ce matin, d'un côté, c'est positif. Dans le sens que ça fait beaucoup moins réagir qu'avant, des annonces comme ça. Et c'est le point positif. Et éventuellement, là, il y aura même plus de réaction, puis les joueurs se sentiront même pas obligés, vont juste vivre leur vie tout court, parce que ils seront pas obligés de faire ça, dans le sens que ça sera même plus nouvelle.
Ça sera pas important pour personne. C'est ça,
non, exactement. Et je te dirais qu'en 3-4 ans, c'est pour ça que je te parle de Michael Sam il y a 3-4 ans, de la réaction, et je te parle de la réaction de la majorité des gens aujourd'hui. Il y en a encore, là. C'est sûr qu'il y a des colibets, pis ça. Puis tu sais, t'as pas besoin, c'est pas juste à cause de ton orientation sexuelle, là. Dans le sport professionnel, les partisans ou les joueurs vont tenter de trouver quelque chose pour justement y aller de commentaires désagréables. Ça, ça va toujours exister, malheureusement. Mais ce que je te dis, c'est que la réaction, il y a 4 ans de Michael Sam, lors de son annonce, et la réaction de Carl Nassib ou Luke Prokop dans les derniers mois, la différence est énorme. énorme. La réaction, elle est énorme et c'est un point extrêmement positif. Et je te dirais que c'est un pas dans la bonne direction où est-ce qu'éventuellement, et pas très loin, là. Moi, j'ai l'impression, dans 4-5 ans, là, ça sera même plus une nouvelle, tout ça. Et ça va passer dans le vide. Et tant mieux.
Ben, je suis d'accord avec toi. Il faudrait que ça passe dans le vide. Mais j'ai comme l'impression qu'il va y avoir pas mal de caméras lors du camp d'entraînement des Predators.
Ben oui, c'est... Hein? C'est clair, mais on en fait la nouvelle. Je pense, j'ai l'impression que, tu sais, des fois, on peut inventer une nouvelle, Carl, aussi. Là. On peut décider, toi et moi, ou n'importe qui, si tous les médias décident qu'il y a quelque chose d'important, puis même si ça ne l'est pas vraiment, mais on décide de mettre l'emphase là-dessus, ça va créer la nouvelle, là.
Ouais, c'est sûr.
On peut décider que c'est une grosse nouvelle, là, puis que c'est quelque chose de gros, puis que je vais t'en parler à tous les jours, puis à un moment donné, le monde va dire, hey, c'est quelque chose, là, c'est important.
C'est comme la saucisse à grade, plus on en parle, plus
exactement. C'est comme ça que ça fonctionne.
OK, Marc, merci, on se reparle demain.
Salut, Carl.